you really ready?
You can't be serious. You cannot be serious.
J'adore le tennis.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première émission d'Oxytennis, le rendez-vous mensuel du tennis en Haute-Garonne et tout autour sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. À l'occasion de cette première émission, je tiens à remercier chaleureusement le comité de tennis de Haute-Garonne qui a assuré une large promotion d'Oxytennis auprès des clubs.
15-0.
Quelle saison, les amis! Entre la déprogrammation de tournois, l'interruption voire l'annulation de championnats par équipe et l'arrêt des écoles de tennis, 2020 va rester dans toutes les mémoires. Les 26 000 licenciés de Haute-Garonne peuvent rendre hommage aux dirigeants des 173 clubs qui ont été très actifs pour conserver le lien avec leurs adhérents, dans le respect des directives sanitaires recommandées par la Fédération française de tennis. Nous aurons également une pensée solidaire pour tous ces enseignants qui n'ont pas été en mesure d'assurer l'encadrement des écoles de tennis pendant 2 mois au moins. L'écosystème du tennis a été très perturbé. C'est pourquoi la FFT a mis en place un plan de soutien et de relance qui a été relayé par les ligues et les comités départementaux vers les clubs. Nous avons demandé à Laurent Darcos, président du comité de tennis de Haute-Garonne, de nous dresser un bilan de la saison et d'augmenter le soutien apporté aux clubs. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Michel.
2020 a été le centenaire de la Fédération française de tennis. Au niveau national, le nombre de licenciés diminue depuis les 7 dernières années. Quelle est la situation en Haute-Garonne ?
En Haute-Garonne, on a aussi observé un petit déclin de licences, une certaine érosion depuis les années 2015-2016. Et il avait été un petit peu résorbé depuis l'an dernier. Les chiffres étaient très bons en mars, avant le premier confinement par rapport au coronavirus. Mais malheureusement, on a dû revoir nos chiffres à la baisse. Mais on est aux alentours de 26 000 licences au niveau de la Haute-Garonne, ce qui représente 25% des chiffres de la Ligue au niveau des effectifs. Et après, c'est aussi le 8e département au niveau national.
Cela confirme des témoignages qui m'ont été donnés, où certains clubs accusent effectivement des reculs de à peu près 20% de leurs adhérents, et notamment au niveau des jeunes, ce qui impacte l'école de tennis. La difficulté d'assurer l'enseignement du tennis met en péril la situation financière des clubs, ça peut se confirmer ?
Là, on a un peu moins de recul par rapport à ce nouveau confinement. Les clubs avaient très bien réagi au mois de mars et le premier déconfinement qui s'est déroulé au mois de mai. La pratique avait été permise, et pas en compétition, mais au niveau de l'enseignement. Et il avait été définitivement autorisé au mois de juin. Donc les clubs s'étaient très bien organisés. On avait anticipé la reprise avec des formules de stage, de rattrapage, pour permettre aux nombreux joueurs et joueuses de pouvoir repratiquer leur sport favori. Après, on attend un petit peu les conséquences de ce nouveau confinement, même si il était permis de pouvoir jouer pour les jeunes joueurs, les mineurs en salle. On attendra à voir comment les enseignants ont pu, avec le soutien de leur club, passer cette épreuve.
Les clubs ont mis en place de très belles initiatives pour compenser les heures non effectuées. Comment les clubs de Haute-Garonne ont adhéré au plan de soutien et de relance proposé par la Fédération française de tennis, où là des budgets importants sont à leur disposition?
Je peux donner quelques chiffres. En fait, au niveau national, la Fédération avait annoncé un chiffre de 21 millions pour un plan de soutien et de relance du tennis, 19 millions qui étaient à destination des clubs, la Ligue de tennis de l'Occitanie et le département, avec le comité de la Haute-Garonne, ont participé à ce plan-là. Donc on encourage tous les clubs, on a ce discours-là avec notre conseillère en développement, on les accompagne dans leurs demandes de projets, d'initiatives pour qu'ils puissent avoir une somme qui permettrait de mettre en place leur projet. Donc c'est une somme très importante pour la Haute-Garonne, ça représente plus de 500 000 euros, donc pour 172 clubs. Il y a une certaine calibration qui correspond au nombre d'adhérents de chaque club pour des montants planchers, mais tous les clubs participent, on a des contacts réguliers avec eux. Donc à ce jour, on a 45 clubs qui ont présenté un dossier et qui sera directement aidé par la fédération.
C'est effectivement une ligne budgétaire qui va participer à la survie de beaucoup de clubs.
Oui.
Dans la perspective des prochaines élections fédérales, Gilles Moreton milite pour, je cite, « redonner la parole aux clubs qui sont le cœur du réacteur tennis ». Cette belle idée passe par une relance des vocations ?
Des vocations des bénévoles ?
Oui.
Des bénévoles, évidemment, oui, oui. La fédération, on va dire, c'est aussi c'est l'eau de la pyramide qui donne l'impulsion au niveau local, au niveau d'une ligue. Dans mon rôle au sein du comité avec toute l'équipe, on a ce discours-là d'être au plus près des clubs, d'accompagner les dirigeants. Donc effectivement, c'est une voie qu'on l'a portée au niveau fédéral pour bien faire sentir que le bénévolat dans le sport et plus particulièrement dans le tennis est très important et qu'on a besoin des initiatives de chacun pour pouvoir développer le tennis et accompagner nos bénévoles.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Très belle année à la tête de la présidence du comité de tennis de Haute-Garonne.
Très bien, je vous remercie à vous et je voulais saluer votre initiative d'émission de radio qui reçoit un très bon accueil. Donc merci à vous pour cette initiative.
Eh bien merci Laurent pour vos encouragements.
Au revoir.
Le tennis professionnel a été très très lourdement impacté par la pandémie durant les 5 mois d'inactivité. Environ 70 tournois ont été annulés sur les quelques 130 prévus dans les calendriers WTA et ATP. Pas mieux pour le Challenger Tour, avec 46 annulations, dont 8 en France. Et je ne parle pas du circuit ITF, la troisième division du tennis mondial. Sur les quelques 1100 tournois féminins et masculins dans 70 pays, combien ont été annulés en privant les pros du tennis de revenus déjà maigres? Nous en reparlerons en cours d'année avec un habitué des tournois futurs. Avec 2 reports et déjà des annulations de tournois, le calendrier 2021 est très incertain. Le circuit féminin qui a été confirmé mercredi reste provisoire jusqu'à Wimbledon fin juin. Les tournois messieurs sont planifiés jusqu'en avril, mais avec déjà des perturbations. Auckland annulé, Indian Wells reporté plus tard dans la saison. L'Australie sera au centre du début de la saison avec 8 tournois WTA et ATP programmés à Melbourne du 31 janvier au 21 février. L'Australian Open, qui est décalé en février, va imposer des conditions sanitaires drastiques aux joueuses et aux joueurs qui seront contraints d'observer 2 semaines de quarantaine en arrivant à Melbourne, avec seulement 5 heures de sortie ou d'entraînement quotidien et 19 heures de confinement dans un hôtel, ce qui crée un stress pour le voisinage inquiet d'une telle concentration de population à faire à suivre. Les qualifications qui sont délocalisées à Dubaï pour les dames et à Doha pour les messieurs débutent ce dimanche. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec un invité de marque qui va participer à ces qualifications de l'Australian Open à Doha.
Wow !
C'est donc un joueur professionnel, classé 162e à l'ATP. Il termine la saison en tête du classement ITF, 14e joueur français. Il est Haut-Garonnais, de Fonsorbe. C'est Hugo Gaston, qui nous a accordé quelques minutes à la veille Noël avant de partir pour les qualifications de l'Australian Open et d'entamer une nouvelle saison. Bonjour Hugo,
bonjour.
Merci de nous accorder ces quelques instants de votre emploi du temps que nous savons très chargé.
Oui, pas aucun problème, très content d'être sur Radio Galaxy aujourd'hui.
Donc vous vous préparez pour la saison 2021, s'entraîner avec des joueurs du top 20 tels que Medvedev et Goffin, c'est un rêve?
Oui, c'est des choses qui font progresser, pour moi c'est très important, ces joueurs en plus sont très gentils, ils nous donnent quelques conseils. Donc partager des moments avec eux, c'est vraiment des moments formidables pour moi, j'essaie d'en profiter un maximum.
D'autant plus qu'ils sont parfaitement francophones.
Exactement, on a un lien en plus, on peut parler en français. Et comme j'ai dit, c'est des personnes vraiment qui se prêtent pas la tête, qui sont très gentilles. Et c'est sympa de partager ce genre de moments avec eux.
Et ben c'est un vrai bonheur, vous avez beaucoup de chance. Aujourd'hui, oui. Vous êtes en famille à Fonsorbe, avant les qualifications de l'Open d'Australie, qui vont exceptionnellement se dérouler à Doha, pandémie oblige. Oui. À votre avis, comment cette formule inédite peut modifier l'accès au tableau final?
Pour moi, j'essaie de rester concentré sur moi, sur ce que je peux faire. Les gens ont la chance de pouvoir jouer l'Open d'Australie. Jouer à Doha, forcément, les conditions vont être un petit peu différentes, mais moi, je vais aborder ça comme quelque chose de bon et je vais tout donner pour entrer dans le tableau final.
Pensez-vous avoir une chance de wildcard comme en 2020?
Écoutez, normalement, cette année, il ne va pas y avoir d'échange avec la Fédération australienne, parce que l'année dernière, il me semble qu'ils n'en ont pas eu à Roland-Garros. Normalement, cette année, d'après mes dernières informations, ils ne vont pas avoir d'échange de wildcard.
Après l'Australie, quel est votre programme pour le premier trimestre, compte tenu du calendrier qui va être très incertain à ce jour, hein?
Oui, c'est sûr, calendrier incertain, mais pour être honnête, avec mon entraîneur, on n'a pas réellement fait notre programmation. On sait à peu près les tournois qu'on va jouer, mais rien n'est défini. Ça sera des challengers en tout cas, et puis peut-être quelques 250. Faudra voir aussi comment moi je me sens sur le terrain et comment je performe aussi.
Accéder directement au tableau des tournois ATP 250 et 500 passe par une entrée dans le top 100. Quels sont vos atouts pour y parvenir?
J'essaye de progresser chaque jour à l'entraînement. Pour moi, c'est le plus important. Si on s'entraîne bien et qu'on a un bon contenu, on progresse. Et puis les résultats suivront. C'est vraiment me concentrer sur mon jeu, sur ce que je peux maîtriser. Puis voilà, en tout cas, j'essaye pas de me mettre trop de pression par rapport à ça. Pour moi, rentrer dans les 100, ça fait partie d'un objectif. J'espère y arriver le plus rapidement possible. Mais encore une fois, si ça prend un peu de temps, je continuerai à m'entraîner dur pour y arriver.
Eh bien, merci beaucoup Hugo pour s'en passer avec vous.
Merci à vous.
Sur Radio Galaxy, nous suivrons vos performances. Hugo, bonne chance, bon voyage.
Ouais, c'est très gentil en tout cas. Merci encore.
40-0.
Un très grand merci à Hugo. Nous suivrons son parcours, sans oublier les autres Haut-Garonnais du circuit professionnel. Nous savons tous que le tennis est un sport exigeant, dont la pratique nécessite une bonne préparation physique, mentale et technique. Aussi, tous les mois, le coach OxyTennis va nous partager son expérience et ses connaissances pour vous aider à améliorer votre préparation et votre jeu. Il s'agit de Vincent, professeur diplômé, un vrai passionné pour qui le plaisir du jeu est au centre de son enseignement. Bonjour Vincent. Alors, pour cette première chronique, tu nous parles de l'évolution du jeu.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous connaissons depuis une assez longue période maintenant une évolution du jeu qui tendait vers la prise de balle tôt, toujours dans le but de prendre de vitesse l'adversaire, dans le but de le ou la surprendre. En termes d'apprentissage, cela se concrétisait donc par un travail physique plutôt axé sur la vitesse de replacement, un travail technique sur l'ancrage des appuis au sol, un travail tactique sur l'œil, varier les zones, contre-pieds, etc. Et un travail mental sur ce que j'appellerais l'attaque du rebond. Ne pas subir l'échange, prendre l'ascendant dès que possible sur l'adversaire, sans forcément venir au filet. Aujourd'hui, les jeunes joueurs ou joueuses sont tellement formatés dans ce registre qu'ils ont besoin de faire évoluer leur jeu autrement. On se rend compte, par exemple, que les premières balles au service sont de plus en plus travaillées, aussi bien en termes de puissance qu'en termes de prise d'effet, avec le slice notamment. Et ce, dans le but de mettre en danger plus rapidement l'adversaire. On revient vers plus de variations, de changements de rythme dans les échanges, surtout chez les hommes. La dernière tactique mise au goût du jour par notre joueur local Hugo Gaston, à Roland-Garros avec l'amorti, en est une preuve indiscutable puisqu'elle s'est avérée payante. On voit aussi depuis peu certains joueurs ne pas hésiter à utiliser le revers slicé, que l'on ne voyait presque plus à haut niveau dans les années 2000. Aussi des joueurs du fond ne pas hésiter à venir plus au filet quand c'est nécessaire. Et ils le font plutôt bien généralement. C'est pourquoi aujourd'hui l'adaptation du jeu évolue vers une capacité à savoir un peu tout faire. Bien sûr en variant, être capable de tenir l'échange physiquement avec une certaine cadence de frappe, surprendre en montant à la volée, ou même quelques services volés de temps en temps. Effectuer des changements de rythme, faire craquer l'adversaire sur un coup précis ou sur une zone précise, etc., etc. Pour reprendre une citation récente de Stéphane Edberg, de mon temps et avant, beaucoup de gars faisaient service volé. C'était efficace à cette époque, mais en y repensant, peut-être que je n'aurais pas dû en faire autant, parce que c'était trop prévisible. Quand on regarde comment le jeu a évolué, tout le monde s'est mis à jouer au fond du court. Mais au cours de ces dernières années, je pense que ça a un peu changé. Stratégiquement, les joueurs ont appris à venir au filet plus souvent, en partant d'un jeu de fond de court. Dans le futur, pour être numéro 1, je pense qu'il faudra savoir tout faire, être très très complet. Défendre du fond, faire un service volé de temps en temps, etc., etc. En conclusion de ce premier thème abordé avec vous, on imagine toute la difficulté à devoir s'adapter mentalement, tellement l'évolution du jeu devient exigeante. Et ce, à tous les niveaux de compétition d'ailleurs. Je ne suis pas surpris de voir certains joueurs craquer, ou donner une mauvaise image sur les courts parce que c'est bel et bien la difficulté du jeu qui provoque ces attitudes. Bien sûr, ça a toujours plus ou moins existé. Bien sûr, ça reste un sport individuel, sauf en double, qui pousse certains ou certaines au craquage. Cependant, il y a aujourd'hui différents types d'accompagnement ou de préparation mentale qui permettent de limiter ce genre de casse. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, cassage de raquettes compris. Mais on en reparlera la prochaine fois. D'ici là, chers auditeurs, prenez soin de vous. À très vite.
Peu de compétitions officielles en Haute-Garonne en ce mois de janvier. L'impact de la Covid-19 laisse encore en suspens quelques animations du plateau Galaxy Jeune. Pour les seniors, n'oubliez pas d'engager vos équipes dans le championnat des Pyrénées au plus tard le 20 janvier. pour participer au challenge de Beaumont, organisé de main de maître par nos amis de Beaumont-sur-Lèze, c'est le 25 janvier pour confirmer votre participation. Si vous avez une actualité, nous invitons les dirigeants de clubs de Haute-Garonne à nous envoyer leurs informations sur le mail contact@radiogalaxie31.com.
Dernier manche.
Et maintenant, pour conclure, voici en partenariat avec les magasins Sport 2000 de Caserre et Fonsorbe, notre quiz tennis.
Sport 2000.
Pour jouer, c'est très simple. Tous les mois, nous allons vous poser une question liée au tennis. Si vous pensez avoir la bonne réponse, allez sur le site radiogalaxie31.com et donnez votre réponse dans le formulaire Occitennis. La première personne à donner la bonne réponse se verra remettre un cadeau offert par notre partenaire Sport 2000 avec les magasins de Caserre et Fonsorbe. Prêt ? Voici l'indice. Qui a participé à Wimbledon en simple à plusieurs reprises ? Il n'y a jamais gagné un seul match, mais a été à la première place mondiale pour quelques semaines. Vous pensez avoir la bonne réponse ? Donnez-la sur la page Occitennis de notre site radiogalaxie31.com. Toute l'équipe d'Occitennis vous souhaite une très très belle année. Surtout, prenez soin de vous et rendez-vous le samedi 6 février à 12h30 pour la prochaine émission d'Occitennis avec d'autres infos et d'autres surprises. Vous pouvez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Occitennis du site radiogalaxie31.com. Bye bye.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café?
Je peux pas jouer tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.